Bonjour, je suis Éric Guevara-Fred, l'émission Tout un monde. Bienvenue dans cette deuxième partie de notre entretien avec Yoann Chapoutot sur le monde nazi. C'est le titre de son livre qu'on revisite pour Zoom Info. Patrick Chaboudet, dans le premier épisode qu'on vous a proposé dans Zoom Info, l'historien français nous racontait les racines historiques et socioculturelles de l'idéologie nazie.
Oui, aussi l'émergence d'un parti au départ marginal qui arrive finalement au pouvoir en 1933. Il y a des résonances avec le reflux démocratique et les tentations autoritaires qu'on observe aujourd'hui.
Et Patrick, donc pour ce deuxième épisode, nous remontons au début des années 30, le parti nazi s'installe dans le paysage politique allemand.
Les nazis ont inventé un mythe qui est le mythe de ce qu'ils appellent la Machtergreifung, c'est-à-dire la prise de pouvoir. C'est héroïque et épique, mais c'est faux. Ils n'ont rien pris du tout parce qu'on leur a donné le pouvoir.
Oui, la caste dirigeante, le président Hindenburg et l'ancien chancelier von Papen déroulent le tapis rouge parce que les nazis et leurs militants, en particulier l'ASA, qui occupent violemment l'espace public, sont utiles et qu'on pense pouvoir les contrôler.
Finalement, on se résout à l'idée de mettre Hitler à la chancellerie, de faire un gouvernement de coalition droite et nazie, comme ça se fait dans plusieurs Länder. Hein, parce qu'on parle de 33, mais c'est depuis 1930 que dans trois Länder, les nazis gouvernent dans des exécutifs locaux avec la droite, et ça se passe bien. On a vu que les nazis étaient des gens fiables, qu'ils ne demandaient pas grand-chose d'ailleurs, ils demandent juste à chaque fois le ministère de l'Intérieur, hein, comme par hasard. Et c'est ce qu'ils obtiennent d'ailleurs en janvier 1933, Hitler est nommé chancelier, le docteur Frick est nommé ministre de l'Intérieur, et la majorité du cabinet, elle n'est pas nazie. Et l'idée, c'est effectivement de s'adjoindre à la force de frappe nazie, les 400 000 SA, contre un parti qui n'en finit plus de monter, qui est le Parti communiste, et qui est évidemment l'épouvante absolue pour les possédants, pour aller vite. Et le pari de Papen, c'est de dire, bon, le professionnel de la politique, c'est moi, il est ancien chancelier, libéral autoritaire, et je vais m'adjoindre à cette force-là, tout en la maîtrisant. Il dit même à son entourage, en parlant d'Hitler, je vais tellement l'acculer dans un coin de la pièce qu'il va couiner.
Oui. Et c'est tout l'inverse qui se produit.
Oui, parce qu'en 100 jours à peine, l'Allemagne a complètement changé de visage. Les nazis, loin de couiner, ont imprimé leur marque sur le pays et les institutions.
Ils n'avaient pas compris à qui ils avaient affaire. Pourtant, c'était pas difficile de les prendre au sérieux quand ils disaient ce qu'ils allaient faire. Mais autant Hitler est un incapable, une sorte de Trump, en fait. Il ne sait pas travailler, il ne sait pas se concentrer. Bref, autant les deuxième et troisième cercles sont des gens très bien formés, très forts, toute une technostructure de gens qui sont docteurs en droit, qui ont fait des études universitaires, qui se retrouvent au sommet de l'appareil du parti ou au sommet de l'appareil de l'ASS. Et eux, ils plaisantent pas. Eux, ils travaillent et ils font les textes normatifs qu'il faut au moment où il faut. Et effectivement, en trois mois, il n'y a plus de parti politique, il n'y a plus de syndicats, il n'y a plus de presse libre et il y a un réseau de plusieurs dizaines de camps de concentration qui sont là.
C'est la fin des institutions démocratiques, des contre-pouvoirs, mais est-ce que, Patrick, on peut parler d'une dictature, déjà d'un État totalitaire ?
Alors non, pas vraiment, car même si Adolf Hitler devient cette figure du Führer incontesté, l'État n'est pas aussi centralisé et vertical qu'on pourrait le croire.
Deux des critères à propos du totalitarisme, l'État fort, tout-puissant et l'homme nouveau, ne sont pas applicables aux cas nazis. Les nazis ne veulent surtout pas d'homme nouveau, ils veulent l'homme archaïque et l'État, ils le détruisent méticuleusement dès qu'ils arrivent au pouvoir au profit d'agences. Le récit qu'on a appris, pieusement, c'est en gros l'alliance du micro et de la matraque. Grosse propagande et répression. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est vertical. Bon, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, en réalité. C'est très déconcentré au niveau du pouvoir, c'est très polycratique, comme le disent les historiens depuis les années 50. Déjà, il y a plusieurs centres de pouvoir, souvent en concurrence les uns avec les autres. Et pour ce qui est de la population, bah, vous avez, en gros, en 1938, après l'annexion de l'Autriche et des Sudètes, vous avez plus de 80 millions d'Allemands. Pour ces 80 millions d'Allemands, les effectifs de la Gestapo sont de 8000. Vous avez 8000 agents de la Gestapo pour 80 millions de personnes.
Oui, à titre de comparaison, la Stasi, la police politique de l'Allemagne de l'Est, comptait plus de 250 000 personnes pour une population de 17 millions d'habitants. Alors bien sûr, il y avait dans l'Allemagne des années 30 d'autres instances de contrôle que la Gestapo, mais pour reprendre une formule apparemment paradoxale, qui est le titre d'ailleurs d'un autre livre de Yoann Chapoutot, une grande majorité des Allemands étaient libres d'obéir dans ce que certains historiens ont décrit comme une dictature de la participation.
Les nazis savent très bien qu'on ne peut pas forcer les gens et qu'il faut les séduire. Donc vous avez tout un appareil de séduction par le cinéma, par les manifestations publiques, par les congrès, par toute l'esthétique nazie. et vous avez une politique d'achat de l'assentiment des Allemands. Il n'y a pas du tout cette verticalité pyramidale qu'on imagine, mais c'est au contraire un encouragement permanent à ce que dans le quartier, à l'usine, dans l'unité de police, etc., les gens prennent des initiatives en réfléchissant toujours à l'approbation du Führer. On peut parler d'une forme de dictature indolente aussi. Hitler ne travaille pas. Autour de lui, ça travaille, mais lui-même a un rôle, au fond, au mieux d'arbitre, le plus souvent. Ça remonte à la chancellerie et il arbitre des conflits entre institutions, entre agences. Et de temps en temps, il y a une fulgurance ou un borborygme qui sort à table. Puis ensuite, vous avez une machine administrative qui va transformer le borborygme, pieusement noté, en ordre. Et ensuite, il va y avoir une dialectique entre la base et le sommet, la base prenant l'initiative, ayant compris dans quel esprit ça devait aller, parce que les ordres sont jamais très précis. Hein. C'est « ce serait bien d'eux » ou « pourquoi pas ceci » ou « tiens, si on faisait ça ». Et à la base, on interprète et on radicalise, parce qu'on se dit qu'il y a une concurrence de carrière avec le voisin, etc. Et en fait, vous avez un phénomène de radicalisation cumulative permanente qui est caractéristique de cette fuite en avant de l'appareil nazi, d'abord dans la domination, dans la prédation, dans la spoliation, et ensuite dans l'assassinat et dans la destruction.
Alors quand on évoque l'Allemagne nazie des années 30, on a cette image d'un régime brutal, autoritaire, et aussi de ce système très bien réglé, efficace.
Alors c'est vrai, hein, on le voit avec les meetings nazis à Nuremberg, ou bien les Jeux Olympiques de Berlin en 1936, cela donne bien cette impression d'une organisation méticuleuse et efficace, mais ce n'est pas vraiment le cas.
Contrairement à l'image que les nazis ont voulu donner d'eux-mêmes, hein, organisation parfaite, défilé au cordeau, géométrie impeccable, c'est un système qui est solidaire d'une dilapidation d'énergie mais permanente. Il faut des moyens absolument considérables pour accoucher d'une souris, en l'occurrence. Mais bon, dans la mesure où, dès les années 30, on se dit qu'on vit à crédit, enfin, on vit sur le vol déjà, hein, parce que les gens qu'on enferme, on leur subtilise leurs biens. On vit sur la spoliation, mais on vit aussi sur le crédit de la guerre. Parce qu'un jour, il y aura une guerre, et là, on va piller l'Europe. Et dès lors, il n'y a aucun principe d'économie et de sobriété, encore moins.
L'adhésion au régime est loin d'être unanime, en fait.
Oui, c'est vrai que tous les Allemands ne sont pas nazis. Hein. Certains quittent le pays dès 1933. Il y a des centaines de milliers d'autres qui sont internés dans des camps de concentration entre 1933 et 1939. Il y a également une forme de résistance passive dans des régions à forte tradition catholique, comme la Bavière, où il existe déjà une contre-société opposée au pouvoir central. Et puis, il y a également, mais c'est plus rare et beaucoup plus dangereux, des exemples de résistance active.
Elle est quand même tributaire d'un courage personnel démesuré, parce que si je vous ai dit qu'il n'y avait que 8000 agents de la Gestapo, quand ils frappent, ils frappent. Et par ailleurs, outre la Gestapo, vous avez des autorités policières de droit commun qui ont été dotées à partir du 28 février 1933 de pouvoirs administratifs exorbitants, puisque là, on est passé d'un état judiciaire à un état policier, avec la police qui décide de tout. Et le régime exceptionnel, c'est pas la prison, c'est le camp de concentration. Donc on sait qu'il y a ça. Et les nazis ne tiennent absolument pas ces lieux-là secrets. Hein. Ça fait l'objet d'une publicité dans les magazines, dans les actes cinématographiques. On vous montre les camps de concentration, on vous montre les barbelés, on vous montre les tourelles avec les mitrailleuses, on vous montre la discipline à l'intérieur, les exercices de gymnastique, les potagers, etc. Pour dire que non seulement on agit contre les ennemis de l'Allemagne, mais pour dire « attention, il y a ça ».
Oui, Allemagne, fin des années 30, on connaît la suite. Et je vous rappelle le titre du livre de Johann Chapoutot, coécrit avec Christian Ingrao et Nicolas Patin, « Le monde nazi 1919-1945 », qui vient de sortir aux éditions Talendier.
Merci d'avoir écouté cette première série de notre nouveau podcast Zoom Info. Rendez-vous ici, tous les 15 jours, pour de nouveaux épisodes préparés par la rédaction de RTS Info. Si ça vous a plu, eh bien merci de nous laisser un commentaire, de partager Zoom Info à vos proches et sur les réseaux. C'est grâce à vous tous, c'est grâce à vous toutes que ce podcast peut voyager et être écouté. Merci.